Il est 18h, bonsoir à toutes et à tous, c'est Enzo, impatient de vous partager ce nouveau numéro de Pleine Balle, votre rendez-vous tennis sur Radio Phoenix. Vous connaissez la recette, on est ensemble pour une heure de débats passionnés, de pronos pas très bien sentis et de vannes encore moins bien senties autour de l'actualité tennis de ces derniers jours. Au programme ce soir, on va tout d'abord revenir sur les finales de l'Open d'Australie. Le premier grand chelem est terminé, sniff, et ce sont Alcaraz et Rybakina qui ont été sacrés au pays des Wallabies. On va également revenir sur les tournois qui nous ont occupés ces derniers jours, Montpellier et Rotterdam pour le circuit masculin et le Masters 1000 de Doha pour le circuit féminin, sans oublier l'incontournable Coupe Davis avec l'entrée en liste de l'équipe de France quand même. On va aussi vous parler du retour de Jack Draper et d'une péripétie qui a dû marquer la semaine de quelques milliers de fans de tennis, la chasse aux billets pour Roland Garros. Eh oui. Enfin, pour la page Normandie, on va aller faire un tour du côté de Bayeux. Il y a quelques jours se tenait là-bas une étape de la Winter Cup, le championnat d'Europe junior par équipe. Vous avez le menu, Pleine Balle numéro 44, c'est parti.
Silence, silver play.
On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise. Et là, j'étais vraiment sur un nuage pendant 3 jours.
That's good stuff. All out of 10 from Federer. Et en ce vendredi 13, mais surtout veille de Saint-Valentin quand même, mes deux acolytes partagent une vibrante passion pour la balle jaune. Je salue tout d'abord la dernière recrue de l'équipe Pleine Balle, une amoureuse des pays froids. Ses idoles sont Casper Ruud, norvégien, et Iga Świątek, polonaise. Et oui, comme quoi il existe en France des fans de Casper Ruud. Ouais, ça existe. C'est Marine, comment ça va?
Coucou, ça va très bien.
Tu le dis bien, oui, fan de Casper Ruud.
Oui, oui, j'assume. J'assume tout à fait.
Mais si tu l'assumes, c'est le principal. C'est ce qu'il faut finalement. Et je salue à ma gauche un amoureux de ses jeunes années. Il chérit l'époque où Martina Hingis était la tête de gondole du tennis suisse, où l'OM performait en Coupe d'Europe. Malgré le temps qui passe, hein, cette époque vintage ne prend pas une ride comme lui. C'est Richard.
Mais quel poète le Baudelaire de Phoenix. Oh, ça fait plaisir. Salut tout le monde.
Ça va bien?
Ça va. Ouais,
je te sens fringant ce soir.
Ouais, je suis content. Ça sent le week-end. Hein.
Et tout à fait.
Ça sent le week-end. Ça pue le week-end. Ouais, non, c'est très cool. Et puis, on a une belle émission qui nous attend. Et puis voilà, on est toujours très heureux d'être ensemble.
C'est super.
Un vendredi sur deux.
À fond la forme.
On est absolument ravis.
Bah oui, toujours.
Tous et toutes ravis. On salue évidemment Emile, notre amoureux de la technique. Lui, c'est l'amoureux de la technique. Voilà. Richard, je transmets le message. Tu l'as réveillé hier soir.
Ah.
Tu lui as envoyé un mail apparemment à minuit 30 et ça l'a réveillé.
Aïe,
je transmets le message. Il était bougon ce matin.
Papy dormait à minuit 30. Oui. Hein. Pourtant, il commence à quelle heure le matin, hein?
Je ne dirai pas à quelle heure il est arrivé ce matin.
Voilà, bon, voilà.
Il y a des choses qui restent.
je savais pas qu'à son âge, on faisait encore des nuits de 12 heures en fait. Hein. c'est une marmotte.
Émile vieillit aussi, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi?
C'est ça.
Bon, bref. Allez, on salue Émile en tout cas. Commençons par le commencement donc, et je le disais en introduction, on va revenir sur les finales de l'Open d'Australie. Il y a 15 jours, on était encore choqués par les deux demi-finales masculines, hein, totalement folles, que nous venions de vivre. On se demandait s'il fallait que Zverev change de sport, on se demandait aussi si Novak pouvait réaliser l'exploit d'aller chercher un 25e grand chelem à 38 ans. La montagne Alcaraz était le dernier obstacle sur cette route vers un 25e majeur, et on a peut-être commencé à y croire, hein, lors de cette finale. Un premier set largement dominé par le Serbe, et on s'est dit, ça y est, on est de retour en 2015, Joko le Croco est de retour, il va nous prendre 3 grands chelems cette année, peut-être un peu d'exagération, mais puisque même malmené par son aîné, c'est Carlos Alcaraz qui a fini par nous rappeler qui était le numéro 1 mondial dominant du moment. Il a renversé la situation pour s'imposer en 4 manches, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, 7e titre du grand chelem pour l'Espagnol qui s'empare de plusieurs records, surtout il devient le plus jeune joueur de l'histoire à avoir remporté les 4 tournois du grand chelem. Impressionnant quand même, notre cher Carlos Alcaraz.
Oui,
absolument impressionnant.
Les mots nous manquent. Non, c'était. On espérait tous avoir une belle finale. Évidemment, on savait tous qu'ils avaient, 5 heures de demi-finale dans les pattes, les deux. Et on espérait quand même avoir un match intéressant, accroché. On a eu un premier set surprenant. On ne pensait pas que, Joko jouerait aussi bien comme
pas
ça dès le début.
Dès le début de match,
Carlito, il n'est peut-être pas rentré aussi bien, mais c'est vrai que Joko a quand même bien joué sur ce premier set. 7. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'où ça va aller ? Et bon, après, voilà, la nature même du tennis a repris ses droits et on a eu quelque chose de beaucoup plus logique par la suite. Et puis Djokovic, évidemment, à son âge, en jouant autant d'heures deux jours avant, évidemment, il a un peu baissé pied assez vite ensuite. Mais voilà, on a quand même eu une finale assez agréable qui n'a pas tenu peut-être toutes ses promesses, mais voilà, je pense qu'on s'est quand même régalé. Les plus nostalgiques, on va dire, ont apprécié de revoir Djoko sur un terrain en finale de Grand Chelem comme ça. Voilà, ça montre qu'il peut peut-être encore le faire. On peut peut-être encore le faire avec quelques concours de circonstances. Il a eu quoi? Un forfait, un abandon?
Ouais, c'est ça.
Voilà, bon, il a fait un super match contre Sinner.
Oui,
voilà,
il fallait le faire.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà, il fallait passer.
Est-ce qu'à Wimbledon, est-ce qu'à l'US Open, il ne pourra pas avoir des circonstances similaires? Il n'est peut-être pas obligé de taper les deux. Hein. Peut-être que s'il non, bat que Sinner ou que Alcaraz, on ne sait pas. Mais bon, les années passent, les mois passent et les années passent.
Marine, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette finale?
Pas mal.
Non, pas mal, ouais.
Enfin, un peu aigri.
J'ai tapé une heure avant, c'était le même niveau. Bon.
Non, j'avoue que j'y ai cru au début. Quand tu vois un Carlos un peu nerveux pour sa première finale de l'Open d'Australie, tu dis, ouais, il y a beaucoup d'enjeux. Premier titre en carrière, alors que Djokovic, en plus, c'est le patron sur l'Open d'Australie. Enfin, personne l'a battu en
fois,
finale.
Il était invaincu, c'est vrai, en finale.
Ah oui, donc tu dis, bon, voilà, t'as ça en face de toi. Un petit peu peur. Et puis, je pense que Djokovic, il a un peu adopté la technique du « Allez, je mets tout d'un coup au premier set, je donne tout ce que je peux. » Et puis on verra, ça passe ou ça casse. Au final, c'est passé au premier set, et puis après, physiquement...
Ça a cassé.
De toute façon, il savait, quoi. Il n'allait pas s'embarquer dans un truc à rallonge.
C'est clair.
Je pense que la seule possibilité, c'est qu'il écrase physiquement et mentalement Alcaraz au premier set, et qu'après, il domine là-dessus tout le long du match. Mais malheureusement, notre petit Carlos, il a été revigoré au deuxième set, et puis il a déroulé. Bon, il n'a pas déroulé, mais...
Il a fait parler sa nature de numéro 1.
Il a fait du Carlos.
Il a fait du Carlos. Il a fait du Carlos, mais c'est vrai que on revient sur ce premier set qui était quand même vraiment le moment le plus étonnant, peut-être entre guillemets, de cette finale, parce que c'est vrai que le premier set, vous l'avez dit tous les deux, il plane vraiment sur ce premier set. Il y a 6-2, et c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de match pendant, ça dure quoi, 45 minutes, une heure, on va dire. Il n'y a vraiment pas de match. Il réussit tout ce qu'il tente. Et c'est vrai que, bon, après, voilà, la logique est revenue. Mais c'est vrai que c'est aussi, oui, comme tu l'as dit, Richard, finalement, assez intéressant de savoir qu'il a encore peut-être en magasin ce genre de performance. Alors, peut-être pas des centaines, tu l'as dit. Mais voilà, sur un ou deux matchs comme ça, il peut encore peut-être y arriver. Sur surface vivante, gazon, terre battue, ça va peut-être être un peu plus.
Bah, après, faut voir Wimbledon, ça peut aussi l'avantager. C'est vrai qu'il est très à l'aise à Wimbledon.
C'est vrai que Gazou aime beaucoup.
Donc, pourquoi pas. Mais c'était intéressant aussi de voir comment allait gérer Alcaraz ce match. Ouais. La pression, le fait de rentrer dans l'histoire, gagner les 4 grands chelems, aussi jeune, etc. Puis bon, peut-être que ça l'a un peu travaillé en début de match, on ne sait pas. Mais après, voilà, il a vite fait abstraction de tout ça, quoi. En tout cas, il est impressionnant d'un point de vue mental.
Force mentale, ouais, c'est assez incroyable.
C'est fou.
Un mois après.
Non, parce que face à l'expérience de Djokovic, tu dis vite, j'ai pas les armes. Djokovic, il a joué toutes sortes de jeux. Il joue depuis. Le mec, c'est un retraité sur le sur le terrain, quoi. Il connaît tout, tout faire. Et au final, t'as pas les armes en face de lui. Et quand tu te fais détruire comme ça au premier set face à un papy qui a 20 ans de plus que toi, il y a de quoi se remettre un petit peu en question et avoir un petit peu peur. Pour la suite, quoi. Et au final, non, il est vachement bien remonté. Pour un petit jeune comme ça, franchement, chapeau, quoi. Ouais. Et puis, beaucoup avaient peur aussi du comeback sans Ferrero dans son staff. Et je pense que c'est plutôt concluant comme première performance, pour le coup.
Oui, on se demande même s'il servait vraiment à quelque chose.
Tout à fait. Voilà.
Franchement.
On demandait à Simon s'il voulait candidater pour devenir... entraîneur de Alcaraz il y a quelques temps, il aurait pu finalement.
Oui, je pense qu'il a toutes ses chances.
Il a toutes ses chances.
Mais d'ailleurs, on n'a pas trop de nouvelles. Ça se trouve, il est déjà avec Alcaraz.
Oui. C'est peut-être grâce à lui qu'il a gagné l'Open d'Australie.
À mon avis.
C'est lui qui est derrière la victoire. Ouais. C'est possible.
Ouais.
C'est
on l'a vu partir en Twingo, Simon, pour aller où? Peut-être à Melbourne.
On ne sait pas. En tout cas, si c'est ce choix qu'il a fait, il a bien fait. En tout cas, bravo. Bravo à Carlos Alcaraz pour ce 7e titre du Grand Chelem à seulement 22 ans.
That's good stuff. All out of tech from Federer.
La finale féminine, à présent, elle avait des airs de revanche, puisque c'était la même affiche qu'au Masters. En fin d'année 2025, Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, était présente pour la quatrième fois consécutive en finale de l'Open d'Australie, c'est vraiment son grand chelem. Face à elle, une joueuse non moins redoutable sur dur, la Kazakh Elena Rybakina, qui retrouvait la finale en grand chelem. La dernière fois que ça lui était arrivé, est-ce que vous savez quand c'était ? La dernière finale de Grand Chelem de Rybakina.
Et donc, c'est pas Wimbledon qu'elle a remporté alors ?
Eh bien, non, il y en
non,
a une autre.
Y a une... Bah, c'était pas l'Open d'Australie aussi, justement, contre Sabalenka.
Tout à fait.
Et elle a perdu.
Et quelle année ?
Allez, 2024.
2023. Marine. Marine, bravo. Voilà. Marine a révisé.
Elle est injouable.
Elle est injouable.
De toute façon, voilà, elle a gagné au Palais des Sports.
Oui, oui,
ah, oui, oui,
je la mets dans un autre monde.
Mais j'essaie voilà, de te faire exister quand même.
Ouais, non, ouais, ouais,
face à un tel pédigré, j'essaie.
Je vais me refaire.
Mais
je vais
oui.
me refaire sur une autre
je question. Je n'en doute pas. Donc, oui, finale de l'Open d'Australie en 2023, face à Sabalenka, déjà. Elle avait perdu à cette époque, mais là. Elle a pris sa revanche, hein, dans tous les sens du terme. La finale a tenu ses promesses. Rybakina a resté sur une superbe victoire face à la Biélorusse au Masters. Sabalenka voulait reconquérir son trône après être tombée l'année dernière face à Madison Keys. Et donc Rybakina a sorti son épingle du jeu. Elle a gagné en 3-7, 6-4, 4-6, 6-4. Deuxième tournoi du Grand Chelem donc pour Rybakina qui regrimpe sur le podium du classement pif.
c'est pif aussi pour les dames.
C'est WTA pif aussi, je crois.
Ah,
ouais, ouais. Ah bah le pif, ils le mettent partout.
Ah, fait calme, moi j'adore.
Partout le pif. J'adore. Bah, on adore le pif. Et surtout, ma question, j'arrive. Encore une défaite pour Sabalenka dans un grand rendez-vous.
Ouais.
Sabalenka est-elle une numéro 1 mondiale friable ? Numéro 1 mondiale friable plutôt, je vais y arriver. Je te vois faire la moue,
friable,
Marine.
C'est un grand mot.
Alors, j'ai une stat, si tu veux.
Ah, vas-y.
Pour étayer, pour étayer mon propos.
Vas-y, je t'en prie.
J'étaye. En 2025, Sabalenka, c'est 9 finales, 4 victoires seulement. C'est moins de 50% de victoires pour Sabalenka.
9 finales sur le circuit ?
Sur le circuit, et seulement 4 victoires.
Et donc, elle n'a que 4 titres l'année dernière.
Eh bien, oui, étonnamment. Elle a que 4
victoires. Que 4
bah ouais. Ouais.
Oui, c'est vrai que. Après, il y a 9 finales, donc il y a quand même des points.
Ouais, non, c'est
voilà,
sûr.
C'est que... Mais il y a quand même 5 défaites. Voilà. Défaite en finale à Roland-Garros contre Coco Gauff, à l'Open d'Australie contre Madison Keys et au Masters contre Rybakina. Et là, même là, dans ce match, hein, elle est même 3-0 dans le 3ème set.
Ouais.
Elle a le break et elle s'écroule encore. Est-ce que ça ne présage pas d'une peut-être une baisse de régime ?
Baisse de régime peut-être, oui. Mentalement.
on parlait pas de toi.
Hein. Ah
non,
pardon.
Ah là là.
J'allais me coucher là de toute façon.
Tu fais comme Emile, toi tu te couches. Toi.
Ouais, c'est ça. Minuit et demi, ça y est. ouais, non, bah mentalement, Sabalenka en finale, c'est vrai que il y a de quoi se poser des questions. Et bon, je vais pas dire que c'est face à des joueuses un peu random parce que bon, on est quand même sur Rybakina. Bon, même si voilà, Rybakina, elle revient, mais c'est vrai qu'elle était un peu absente pendant ces deux dernières années. On la voyait plus trop challenger un peu notre tête de série. Mm-hmm. Mais quand on voit qu'elle arrive à perdre contre Keys l'année dernière, même si elle a fait effectivement un très beau tournoi, perdre contre Keys, perdre contre Coco, alors que Coco, elle est tout aussi friable mentalement. Là, voilà, premier rendez-vous de la saison, elle est fraîche, elle est en forme et tout, c'est son tournoi. Bon, elle arrive à renverser le match, elle perd le premier set, elle gagne le deuxième, on se dit ça y est, c'est bon, elle est relancée, elle mène dans le troisième, et puis au final, elle se laisse... En fait, elle se laisse dominer, j'ai un peu l'impression qu'elle laisse ses finales, qu'elle se sabote toute seule, et...
C'est surprenant.
Ouais, c'est un peu... C'est inquiétant.
Oui, oui, oui.
Richard,
bah, oui, bah, effectivement, comme tu l'as dit Enzo, elle n'a pas été très régulière l'année dernière, c'est ce qui permet de rendre le tennis féminin aussi assez intéressant. On ne sait jamais trop ce qui peut se passer, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation, etc. C'est vrai que Rybakina, bon, il ne faut pas non plus trop la sous-estimer. Bon, est-ce que c'est vraiment elle qui s'est mis les pieds dans le tapis toute seule ? Elle a fait aussi une bonne fin de match, Rybakina, en Australie.
Ah oui,
à côté
oui,
de ça.
Sûr.
C'est vrai qu'elle surfe.
Elle surfe sur une dynamique incroyable.
Ah oui, elle revient,
184
elle
victoires en 183 matchs. non, mais voilà. Bon, après, je ne le cesse de le répéter, mais voilà, le tennis féminin, c'est, on a toujours des petites irrégularités, en tout cas en ce moment. Et je trouve que, oui, effectivement, ça va. Sabalenka illustre bien ça aussi. Bon, maintenant, elle est quand même assez régulière. 9 finales l'année dernière, des finales de Grand Chelem, en veux-tu, en voilà. Bon, voilà, moi, je ne tomberai pas dessus. Pas tout de suite, en tout cas.
Pas tout de suite, ouais, c'est ça. On va attendre de voir ce qui se passe après.
Pas tout de suite, ouais, pas tout de suite. Mais en tout cas, chapeau Rybakina, j'ai plutôt envie de dire
oui,
ça.
Voilà.
Ouais, ouais. On a fait un tournoi remarquable, un match remarquable, enfin vraiment...
tournoi remarquable.
Et puis on l'attendait pas à ce niveau-là, alors qu'elle fait quand même un dernier semestre hallucinant.
C'est vraiment la joueuse qui passe entre les gouttes à chaque fois. J'ai l'impression on la pronostique assez rarement, on la sent rarement venir. Et c'est vrai que on sait qu'elle est capable de genre de.
Oui, c'est vrai qu'elle elle a pas non plus un tableau de chasse extraordinaire en grand chelem. Peut-être pour ça qu'on n'y pensait pas plus que ça, je sais pas. Mais non, je pense qu'il va falloir compter avec elle. Si elle continue comme ça.
Oui. Elle est remontée quoi là?
Elle est troisième.
Troisième.
Maintenant, on va voir si elle est aussi inspirée sur les autres tournois du grand chelem.
C'est ça. Maintenant, il faut voir ailleurs. Est-ce qu'elle
faut
va s'exporter en dehors de sa surface?
Parce que bon, il y en a d'autres qui s'écroulent pour de vrai. Tu parlais d'écroulement. Zviantec, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Marine a déjà chialé pour une semaine.
Je pleure.
Coco Gauff. Moi, je préfère parler d'écroulement quand on évoque ça. On va sûrement parler après du tournoi de Doha.
Oui.
Je trouve qu'on a d'autres symptômes encore plus forts de l'écroulement de certains personnages dans le tennis féminin.
C'est vrai que c'est un symptôme qui se propage. Peut-être appeler un médecin d'ailleurs.
Une épidémie d'écroulement.
Une
écroulité.
Une écroulité aiguë. Quel traitement faut-il donner? On ne sait pas. Donc ça, c'était pour l'Open d'Australie qui est maintenant derrière nous. Et donc après cette Open d'Australie, le circuit, il entre dans une phase un peu bizarre. Hein.
Transition.
Un peu bâtarde. Hein. En vrai, les joueurs, les joueuses, ils vont là où leur surface leur semble le plus à même de leur convenir. Alors, on a des tournois en Amérique du Sud, sur terre battue. D'ailleurs, Richard, je pense que ça ne t'a pas échappé. Gaël, mon fils, devait en être.
C'est ce que j'allais dire. Il y a des gens qui font des choix. Le tournoi de Buenos Aires, auquel ne participent pas Gaël, mon fils. Je pense qu'il prend du bon temps, il profite. C'est sa dernière année. Bon, j'y vais mollo, tranquille.
Oui, voilà.
On va pas se blesser, autant ne pas jouer, en fait. Comme ça, on sera sûr de pas se blesser.
Il me semblait qu'il était tombé malade.
La gastro.
C'est la gastro.
Ah oui, c'est ça vrai. Ça ne pardonne pas. Attention.
Ça fait deux semaines qu'il a la gastro.
Rappelle-toi le flunch de Mexique. Rappelle-toi le flunch de Mexico.
Non, mais j'aime bien croire que Sky ait chopé la gastro, elle leur file à son père. Pourquoi pas,
c'est fatal tout ça.
Mais bon, ça fait quand même deux semaines, là. Petit père.
Une épidémie, hein.
Une gastro, j'en ai quand même fait quelques-unes. T'es mal 2-3 jours. Ça va, après tu reprends ta raquette. Franchement.
Gaël, si tu nous écoutes, on demande de tes nouvelles.
Ouais. On en a déjà parlé la semaine dernière. Quand tu vois ce que fait Stan,
Stan n'a pas la gastro
à Rotterdam.
Il n'a pas la gastro.
Il te dit ok, c'est ma dernière année. Putain, il y va le gars, quoi. Tac. Et il est bon, il joue bien. Et il va au charbon. Et... Gaël, qu'est-ce que tu fais? Réponds-nous, quoi.
Gaël se soigne, d'accord, à coup de Doliprane.
Et de coca.
Ça fait mal.
Et de coca dégazé.
Pas de Buenos Aires, pas de. Il était où avant? C'était Sao Paulo? C'était quoi celui d'avant?
Ouais, je crois que c'était Sao Paulo. Ouais.
Donc je sais pas ce que c'est celui de la semaine prochaine, là, mais.
Bah, pas, du coup. Hein. Il y en a pas.
Oh là là.
Ouais, non. Bon, écoute, Gaël, en tout cas, voilà, on veut de tes nouvelles. Tu nous inquiètes. Donc on a besoin de savoir comment tu vas. Donc en tout cas, oui, forfait, hein, on l'a dit pour Gaël, mon fils. On a donc aussi des tournois sur dur extérieur pour la WTA, on va y revenir tout à l'heure. Et on a des tournois en Europe sur dur indoor. Parmi ces tournois, on avait l'Open Occitanie. Et oui, du côté de Montpellier, évidemment, Occitanie. Un tournoi 250, on avait du beau monde. Sur la ligne de départ, Stan Wawrinka, invité, Mpetshi Pericard, le joueur préféré de Marine, Roberto Bautista Agut, ça c'est pour toi,
Moïse. Roberto,
il était. Moïse Kouamé aussi, qui est sorti des qualifs. Arthur Fils, qui a fait son retour sur les cours. Très belle coupe de cheveux, magnifique. Vrai, ouais. Après plusieurs mois d'absence pour blessure, il est allé jusqu'en quart de finale, où il s'est incliné face au futur vainqueur du tournoi, Félix Auger-Aliassime. Le Canadien a conservé son titre acquis l'an dernier, face en finale au divin chauve. Non, ce n'est pas Fabien Barthez, non, ce n'est pas Christophe Jallet, non, ce n'est pas Richard rasé à blanc après une soirée trop arrosée, c'est bien sûr Adrian Manarino, dont on disait du bien dans la dernière émission, hein, franchement.
C'est assez fou quand même. Hein.
C'est Manarino, voilà, qui nous fait une finale, un tournoi incroyable, en sortant Hugo Humbert notamment.
Oui.
Qu'est-ce qui lui arrive là, notre Adrian?
Très inattendu, ouais, ouais.
Ah là, c'est pour le moment inattendu.
On l'attend jamais, de toute façon, lui. Il vient, il traverse le tableau, et puis coucou.
Toujours avec sa dégaine de 15-4 qui joue le tournoi interne du club tous les 36 du mois.
Non, mais on est d'accord, il vient sur le terrain pour jouer et tout, il s'en fout, mais oh, c'est immonde quoi.
Après, moi j'aime bien.
Prends la taille en dessous. c'est moche quoi.
Célio, j'allais dire Jules Marie est encore chez Célio.
Bien sûr, Jules Marie est chez Célio, évidemment.
Le lapsus.
Ah oui. est toujours sur scène. Bah, arrêtez de rigoler. C'est une marque. Franchement, des... voilà. C'est pas
Bulgari
la
ou c'est marque. C'est...
voilà, il y a Adriane, il y a Jules-Marie, il y a Corentin.
Il y a Corentin,
je crois. Il y a Corentin Moutet, ouais, ouais. Chez Célio. Il faut qu'on cite d'autres marques, là, sinon on va nous tomber dessus, là. Jules.
Du beau monde,
Zara.
Zara,
allez,
ouais,
ça fait trois, là.
Il y a qui en équipementier? Il y a On aussi pour Shelton. Allez, on va faire tout le monde. Comme allez, ça, voilà. Bon, bref, on parle sportswear aussi dans Pleine Balle. Maintenant, on se diversifie dans nos
c'est
sujets
ça,
finalement.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai que ouais, Adrien Manarino complètement fou cette semaine incroyable. Là,
Bon, après, il n'a pas non plus tapé un top 5 ou un.
Non, mais bon.
Il gagne des matchs.
Oui, puis voilà. Il a quand même des adversaires solides sur le terrain.
Et niveau de jeu plutôt intéressant. Ouais.
Plutôt intéressant.
Mmh. Bah déjà l'Australie, il y avait du mieux.
Ouais. Non, bah non,
je ne crois
non,
pas,
non, non,
non, non rappelle-toi.
C'est juste après l'Open d'Australie.
Ouais, c'est juste après.
Ok, d'accord.
Parce que l'Open d'Australie sort au premier tour contre Jakarta.
Non, bah c'est moi qui bug. Ok, ça a été l'Occitanie et bam direct. Ouais.
Bon, c'est beau. Bah après, il a fait un 3-7 en plus contre. Non, je suis pas sûr. Contre Félix en finale.
Non, je crois que c'est 2-7.
Non, 2-7.
Il me semble que c'est une finale 2-7.
Ouais,
mais
2-7.
Une finale, somme toute, c'est pas un cavalier seul, quoi. Pour Félix,
pas
qui est quand même une
raclée.
Grosse pointure sur indoor dans le top 10. Non, c'était pas un cavalier seul. Et là, par contre, où il a fait 3-7, notre cher Adrien Manarino, c'est cette nuit. La nuit dernière contre Ben Shelton à Dallas.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Gros match aussi contre Ben Shelton.
Mais il a perdu cette fois.
Ouais, il a perdu en 3-7. Mais vraiment une belle opposition. Et Manarino, qui a 37 ans, bientôt 38, est aux portes du top 50. Et bien ça, franchement, il fallait le dire, hein, il y a encore quelques semaines.
Moi, j'en connais à 38 ans qui s'arrête pour une gastro. Voilà.
Qui te dis-tu? Ouais, évidemment. Non, c'est pas mal. Bon, après, il avait le jet lag dans les pattes, en plus, hein, Adrien.
Bah ouais, en plus.
Donc, il n'a pas eu le temps de trop s'adapter. Mais c'est cool. C'est cool de faire 3-7 contre Shelton. Sur les terres de l'Américain.
Et en plus, oui. Voilà.
Non, c'est bien. C'est bien, on va voir un peu jusqu'où ça va aller comme ça. Mais
oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça va se pérenniser dans l'année ou... Ouais, voilà, ouais, d'accord.
Non, mais on verra bien, c'est déjà bien. Ça. Il faut prendre là, à cet âge-là. Tu fais une finale, tu fais un bon tournoi, ça te donne quelques points.
C'est clair.
Ça permet de rester dans les tableaux là, toute l'année, donc c'est cool.
C'est ça. Ça se prend, voilà. Ça se prend pour Adrien. Et on ne peut que le féliciter de ses belles performances à 37 ans. Hot. Et en parallèle de cet enchevêtrement de tournoi, on avait le premier tour qualificatif de la Coupe Davis, quand même. C'est pas rien. La doyenne des compétitions par équipe, celle qui entraîne dans sa folie des centaines et des millions d'amoureux de tennis à travers le monde. Puis je veux dire, bon, on a beau être à la veille de la fête des amoureux et des amoureuses, à quoi bon avoir un Valentin ou une Valentine quand on peut se languir devant tant d'affiches plus séduisantes les unes que les autres? Je veux dire, Équateur, Autriche, Japon, Australie, Inde, Pays-Bas.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Merci.
Oui, bon, ça va, on est au courant que la Coupe Davis, c'est plus ce que c'était, mais bon, dans cet océan d'indifférence, l'équipe de France retrouvait la compétition, tout de même, après le fiasco du dernier Final 8 face à la Belgique, rappelez-vous. Pour cette fois, l'adversaire désigné était la Slovaquie. Un pays très bon en hockey sur glace, mais pas franchement réputé pour être une terreur du tennis masculin. Et pourtant, les Bleus ont eu chaud. Après la première journée, les deux équipes étaient dos à dos, un point partout. Pour ses débuts en bleu, Alexandre Muller s'est incliné face à Alex Molchan. Mais le numéro 1 français, Arthur Rinderknecht, a tenu son rang. Non sans batailler face à Gombos, puis face à Molchan. C'est terrible. Et le double Herbert Bonzi a quand même fait le travail, lui, pour une victoire finale 3-1. Paul-Henri Mathieu peut souffler, ses hommes seront au second tour. Les Bleus font le taf, mais c'était quand même pas flamboyant.
Franchement, pas trop en forme.
C'était chaud.
C'était laborieux. Et puis je pense qu'ils se mettent la pression en plus. C'est vrai que c'était la première sélection de Muller. Bon voilà, pas évident. Et puis les mecs en face, ils jouent le feu. Enfin, ils jouent leur vie, quoi. Ils viennent jouer en France, chez nous. Après, c'est la Coupe Davis, mais. Mais oui, on attend mieux, quoi. On attend mieux.
Norbert Gombos, quoi.
Norbert Gombos.
C'est le nouveau nom, ça y est.
Faut s'en méfier.
C'est notre nouvelle terreur.
Faut prendre ça, et puis bon, prochain rendez-vous, c'est quand? C'est en septembre,
Septembre, face au Canada.
Donc, est-ce qu'on aura nos meilleurs joueurs cette fois? Je ne sais pas. Est-ce que, est-ce que Humbert sera là? Est-ce que Fils sera là?
Sera revenu un petit peu. Est-ce que Gaël Monfils sera guéri?
Peut-être pour finir sur une note collective.
Collective. Hein.
Non, mais on verra. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on va jouer le Canada en plus.
Ouais, Canada qui a sorti le Brésil.
Avec certainement Gael Yassim. Voilà, avec peut-être Diallo, c'est ça?
Diallo, ouais. Chapovalov qui est pas non plus très très bon.
Chapovalov qui est pas mal.
C'est des gros noms.
Ouais, ça va être costaud. Et puis ça sera là-bas, hein, ça sera au Québec, à Montréal. Donc ça va être une belle affiche. Bon, on verra si nos Français nous font plaisir ou pas.
Faut être optimiste, ouais.
Marine, t'y crois, toi c'est... Qu'est-ce que ça t'a inspiré, ce premier tour?
Ça m'a inspiré, bon. Ouais, bon. Je n'ai pas tout à fait regardé, voilà ce que ça m'a inspiré.
Soyons honnêtes, hein, voilà.
Ouais, c'est du français, quoi. J'attends pas grand-chose non plus de la part des Français. Surtout dans des, bon, on va dire pas dans des gros rendez-vous. La Coupe Davis, c'est un peu ce que disait Richard, c'est plus trop ce que c'était. Et ouais, non, Müller, ben, c'est un peu, des fois il nous fait des bonnes perfs, des fois il est pas là. Bon, là il était pas là.
C'est un peu plus compliqué ces derniers temps pour
Müller. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, parce qu'il nous a fait quand même des bons trucs. Donc,
oui, non, non.
On va pas être trop médisant. Rinderknecht.
Bah oui, Rinderknecht, oui. Je pense que.
Surtout dans, dans les tournois d'après.
Moi, je pense qu'il plafonne un peu là.
Oui, je pense qu'on arrive à
les top 30.
Ouais, on sent qu'il y a le plafond là.
Voilà, et je sais pas si ça lui va bien ce rôle de numéro 1 français.
Je suis pas sûr qu'il
le vive bien en fait.
Lui-même. Et puis il a l'air d'en avoir marre en plus. Enfin, je sais pas, quand je le vois sur le terrain, il a pas l'air d'avoir envie d'être là, je veux dire.
Ouais, c'est surprenant.
Ouais, je sais pas. Et puis maintenant, il s'est fait dépasser par son cousin en plus. Alors,
ouais, c'est vrai.
Il y a la guéguerre.
Il y a les boules, quoi.
Il y a la guéguerre franco-monégasque.
Monaco qui est passé, hein.
Monaco qui est passé. Ouais,
Monaco qui est passé. C'était assez fou. Mais tu vois, je te trouvais un petit peu dur tout à l'heure dans ton entrée en matière sur la Coupe Davis. Moi, je me régale quand même plus devant ces matchs-là, à domicile, extérieur, plutôt que sur la phase finale là, du mois de décembre, qui, elle, pour le coup, est un. Voilà, c'est un simulacre de Coupe Davis. Mais voilà, moi, ça m'a fait plaisir de voir justement Inde Pays-Bas, parce que les Indiens ont gagné.
Et oui, non, par contre,
les Coréens ont gagné. Voilà, je trouve ça fou d'avoir encore ces rencontres-là, parce que même quand c'était le grand temps de la Coupe Davis, bon, on avait toujours ces matchs de groupe 2, de groupe 3, avec des petits pays, etc. Donc ça, on retrouve un petit peu cette ambiance-là. Et moi, j'ai bien aimé ces images justement de voir les Indiens qui étaient fous de joie après leur victoire, qui était grandiose pour eux. Donc pour ça...
Non, ça c'est vrai, belles images. Je te rejoins complètement sur cette magnifique victoire. Un exploit quand même historique du tennis indien. Mais bravo pour eux et bravo pour cette victoire face aux Pays-Bas. Et dans ce premier tour de la Coupe Davis, on avait la Grande-Bretagne qui a corrigé la Norvège 4-0.
Ah,
une rencontre au cours de laquelle.
Il n'y avait pas Casper.
Oui, mais alors.
Il n'y avait pas Casper, mais il y avait Jack Draper qui a joué son premier match de la saison. Marine, je te laisse la parole car je crois que c'est un joueur qui t'a inspiré pour ta chronique.
Au-delà de ta concentration, devient facile.
Est-ce que vous aimez le thé, les garçons?
Le thé comme tennis?
Non, le thé comme thé.
Le thé comme thé. J'ai plus café, moi.
Ah ouais, café? Non, le thé.
Un petit thé à la menthe, moi.
Ouais,
mais c'est pas très anglais, ça. Moi,
ouais,
c'est plus Médine Marrakech, moi, tu vois.
Ah ouais, le thé bien sucré.
Avec une petite salade d'orange avec un
cannelle.
Ah, voilà.
Avec les petits biscuits, là. Ouais, je vois.
Petit reverlon de ligne d'Hicham, là.
Non, un petit thé vert menthe, petit fruit rouge, non?
Ouais, c'est ça, sympa. Ça va, c'est bien.
Ben, ça tombe bien.
T'en as apporté?
Alors, ouais, mais sous une autre forme. Non, je vais évoquer un thé qui est bien british, un beau bébé gaucher d'1m93 et 85 kilos, qui pourrait être mannequin, en vrai, s'il n'avait pas été aussi doué au tennis. Puis bon, il est un peu quand même mannequin hein, quand on voit ses shootings qu'il a fait avec Vuori, son nouveau sponsor depuis Nike. On se demande quand même s'il s'est pas trompé de carrière. C'est beau.
T'es sous le charme.
Ah, dis donc. Saint-Valentin en approche.
Ses beaux cheveux qui volent au vent, ses gros bras saillants, un vrai regard de ton verre. Il y a un peu tout l'attirail pour réussir. Quoi. Je m'égare. On parle d'un joueur de tennis. Pas le mannequin.
Jack, tu nous écoutes. If you are listening to us.
It's true. Non, Jack le joueur. Alors, que dire? Bon, ben, écoute, il nous a fait un peu une Anisimova, hein, niveau parcours. Alors, pour nos plus fidèles auditeurs, vous saurez de quoi je parle. Je vais faire une petite piqûre de rappel quand même. Il nous sort de nulle part, hein, et il vient faire vaciller le top 10. Voilà, très simple.
C'est bien.
2021, 259e mondial. 2022, 42e. Et à la mi-2025, 4e mondial. Une ascension éclair pour notre British, et les plus futés auront compris que je fais référence à son beau tatouage en haut de son bras gauche.
Oh là là.
Bon, on n'est pas ici pour parler de style, hein, même si c'est un peu discutable. Mais bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. Jack, tu ne nous en voudras pas. Bon, alors notre petit Jack, il a quand même baigné dans le tennis dès sa naissance. Hein. Un père anciennement directeur de la Fédération britannique de tennis et une mère entraîneuse. À 3 ans, on lui a déjà fourré une raquette de tennis dans les mains.
Ouais, c'est Jack Draper, c'est un petit prodige en devenir, finalement.
Ouais, c'est ça, hein, comme un peu beaucoup de joueurs. Bon, je vais vous épargner hein, le résumé gargantuesque de ses performances durant sa jeunesse et son début de carrière, parce que, bon, le plus intéressant, c'est quand même d'étudier le Jack de maintenant, parce qu'avant sa blessure, Jack, il vole. Ça aurait la référence, hein.
Jack, il vole ? Je ne l'ai pas.
Jack, il vole.
Titanic.
Ah, Titanic, ok,
enfin.
D'accord.
C'est vraiment ça.
Ouais. Bah, moi, je l'ai vu qu'en VO, excuse-moi.
It's true, it's true. It's true.
Les auditeurs ne comprennent pas cette référence à It's true, là.
On arrive.
Ça viendra.
Donc Jack, il vole. Hein, Jack Draper, je précise. Il conclut 2024 en remportant 2 titres à Vienne et Stuttgart. Et 2025, une saison indeed très prometteuse. Indeed, ah, décidément, l'anglais, c'est...
ça va être le fil rouge de cette émission.
Hein. Une saison, très prometteuse. Engagée notamment par sa victoire au Master d'Indian Wells. Très convaincante. Il a quand même Tej Fritz, Shelton, Alcaraz et Rouneux en finale. Un peu remarquable quand même comme performance. Et puis, il enchaîne ensuite avec une finale à Madrid. Bon, malheureusement perdu contre un Casper Ruud en forme. Casper Ruud.
Ça arrive, comme quoi.
Et puis en grand chelem, il arrive quand même à atteindre les huitièmes de finale à l'Open d'Australie et à Roland-Garros. Et on rappelle quand même qu'il a atteint la demi-finale à l'US Open en 2024. Bon, certains aigris pourraient arguer que ce n'est pas mirobolant comme performance. Moi, je trouve ça prometteur pour la suite, surtout au vu de son jeu en puissance, en cadence, bien dynamique qu'il peut produire. Il pourrait, et j'évoque l'hypothétique, parce que je ne veux pas me faire taper dessus par les messieurs dans la salle, causer des problèmes à notre bromance Sinalcaraz dans le futur.
Après, ce serait bien.
Bah pourquoi pas.
Bah oui.
Si, franchement, ce serait cool un trio.
Bah ouais.
On dit pas non. On dit pas non. Un big three finalement.
Ah oui, c'est ça. Another big three.
Après, bon, c'est bien beau, mais encore faut-il qu'il arrive toujours à tenir sa raquette.
Hein, oui, j'y viens, Enzo, j'y viens. A toujours un trouble fait, hein, c'est pas possible. C'est vrai que cette ascension a encore et toujours été stoppée par une blessure, visiblement longue et inquiétante. Bah oui, notre petit Jack, il a fait un retour de conquérant à la Coupe Davis, mais il revient un peu de loin. Son dernier match remonte quand même, je le rappelle, à l'US Open 2025, où il n'a même pas pu disputer son deuxième tour, obligé de faire forfait à cause de sa blessure au bras. Une blessure qui traînait déjà depuis Wimbledon, d'ailleurs. Donc bon, après, frapper ultra fort dans une balle... Ça pardonne pas, quoi.
Il y a des risques.
Et puis, il le dit lui-même, hein, il a voulu trop s'empresser d'atteindre le duo leader et au final, il a mal géré, en a trop demandé à son corps, et son cœur aussi.
C'est ton cœur qui a l'air troublé, toi.
Jack me... Ouais, non, je suis toute retournée.
Ouais, il te chamboule.
Donc, ouais, résultat blessure. Alors, on pensait quand même le revoir avant la fin de saison. Et finalement, bah, que nenni, en septembre, il annonce sa fin de saison, donc bon... Un peu tristoun, quoi. On se doute bien qu'il s'est soigné pendant ces 4 mois, qu'il s'est entraîné pour revenir plus fort, tout dégommé à l'Open d'Australie. Décembre 2025, Jack Draper annonce son forfait à l'Open d'Australie. Bon, Jack, il s'agirait de se mouiller un petit peu, de revenir. Alors, je sais que l'eau est froide, que tu en gardes de mauvais souvenirs, mais promis, il y avait de la place sur la planche, t'aurais pu monter, Jack. Pardon, je m'égare encore, fausse route. Désolée, je suis toute retournée. La Coupe Davis, retour convaincant, rassurant, encore plus fort. Bon, forfait à Rotterdam, ça commence à devenir redondant. Donc voilà, la situation actuelle exposée. Il a quand même admis qu'il était prêt cette saison à venir talonner le duo italo-espagnol et devenir le trouble fête. Mm-hmm. À voir.
Oui.
J'y crois un peu. Il est annoncé pour l'ATP de Dubaï fin février. Et puis il aura son titre à défendre à Indian Wells début mars. Donc je pense qu'on aura les premières bribes d'un vrai challenge pour lui. Donc à voir s'il pourra relever un peu le défi ou pas. Alors, pessimiste, optimiste ?
Ou bah déjà, faut qu'il revienne.
Ouais,
quoi.
Voilà. Faut qu'il rejoue, quoi.
Voilà,
il revient, il repart.
C'est ça. Bah là, il repart plus souvent qu'il revient.
Oui, et puis là, c'est pas qu'il s'enflamme, mais bon, moi, j'aime bien qu'il ait titillé le duo.
Moi aussi, j'aime bien.
Faut déjà qu'il revienne, faut déjà qu'il confirme. S'il est quand même pas dans la boucle depuis hyper, hyper longtemps, notre ami Jack. Hein.
Pourquoi pas, effectivement. Bon,
bolo,
ça serait
bolo.
Cool. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, mais. Calmons-nous.
Il est tout jeune, il va être là physiquement.
Ouais, il faut qu'il tienne.
Après, c'est intéressant, c'est un joueur sympa à voir, offensif, il prend des risques, gros service, gros coup droit. Voilà. Tu te retrouves bien là-dedans, j'imagine, Marine.
Ouais, exactement.
voilà, donc non, il a tout pour te plaire, ce joueur.
Ah oui, c'est pour ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est cool d'avoir un joueur, on espère, qu'il amène un peu de piment au sommet du classement, ce serait pas mal.
Ce serait pas mal, effectivement.
Ce serait pas mal.
Ce serait pas mal, un petit Jack Draper en haut du classement. Merci Marine pour cette belle chronique dédiée à Jack Draper, le joueur de tennis, évidemment.
Oui, le joueur de tennis, bien sûr.
Ouais, ouais. Et peut-être qu'il nous a écoutés, hein. Peut-être.
Jack, if you're here.
Là, je sens que... il a comme une ouverture, là.
Je pense qu'il a des touches, il y a quelque chose à faire. Je le disais tout à l'heure, le circuit WTA a posé ses valises dans le golf avec deux tournois importants ces derniers jours. Tout d'abord à Abu Dhabi, un WTA 500 où les têtes de série n'ont pas été à la fête. Bencic, forfait. Navarro, Fernandez, Ostapenko éliminés au deuxième tour. Seule Alexandrova a tenu son rang et a rallié la finale, mais n'a pas pu s'imposer. La victoire, elle est revenue à la Tchèque Sara Bejlek, 20 ans, qui remporte là son premier titre sur le grand circuit et qui grimpe par la même occasion au 38e rang mondial. Le vivier tchèque, toujours aussi dense, hein, on en a une nouvelle preuve avec Sara Bejlek. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Sara Bejlek ou...
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est que...
Sara Bejlek.
Sara Bejlek, voilà, une nouvelle tchèque prometteuse. Ouais, comme on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On va apprendre à la connaître.
On va apprendre à la connaître. Va être confirmé, ça. On le saura dans quelques mois, dans quelques semaines. Et donc, deuxième gros rendez-vous, le Masters 1000 de Doha. Pardon, le Qatar Total Energy de Doha.
Open 2026.
C'est non, là, franchement, c'est pire en pire. Premier tournoi de ce calibre, hein, quand même, de la saison. Masters 1000, c'est le tout premier. Mmh. Et alors là, c'est même plus une hécatombe. Hein, c'est le grand ménage de printemps avant l'heure parmi les têtes de série. Elles étaient 16 au départ. Elles ne sont plus que deux en demi-finale. Victoria Mboko, tête de série numéro 10, qui, depuis le moment où j'ai écrit ces lignes, est passée en finale d'ailleurs. Hein, donc, elle est en finale, on va y revenir après. Mais donc voilà, dans le dernier carré, Victoria Mboko, tête de série 10, et Karolina Muchova, tête de série 14, sont les deux rescapées. Alors, où sont passés leurs semblables, me direz-vous ? Eh ben, pour la plupart, elles ont passé un tour, et puis après...
Finito.
Même les deux premiers. Celui-là, je vais aller le rechercher, celui-là.
Il y a un certain effet, là.
Ah, ben bien sûr, on travaille ici, tu vois bien.
J'ai bluffé.
Ah, ben je me doute. C'est tellement impressionnant en même temps. Merci à Emile, hein, toujours taqué sur le timing, évidemment.
Incroyable.
Même les deux premières têtes de série sont passées à la trappe. Rybakina, tête de série 2 tout d'abord, récente vainqueur de l'Open d'Australie, on en parlait tout à l'heure, est tombée face à la fougue de Victoria Mboko. Quant à Iga Świątek, Marine, je te regarde, elle a baissé les armes en quart de finale, elle aussi face à une revenante, Maria Sakkari, la grecque qu'on croyait perdue comme Tsitsipas, s'est imposée 7-5 au troisième set. Sakkari met Świątek pleure et ça nous donne une fin de tableau. Je l'ai travaillé.
Super, là, on a un enchaînement là.
Là, je l'ai travaillé celle-là. j'en suis pas peu fier. Et ça nous donne une fin de tableau extrêmement ouverte qu'on va pronostiquer dans quelques instants. Mais, on a tout. La véritable info qui circule à propos du circuit féminin, elle se trame en coulisses. Évidemment, c'est une rumeur qui prend de l'épaisseur. Les jours et les semaines passant, Serena Williams serait-elle sur le chemin du retour? Oui, on en avait parlé il y a quelques temps, mais elle s'est réinscrite, ça c'est officiel, sur la liste des athlètes pouvant subir des contrôles antidopage, ce qui veut dire en clair qu'elle peut se réinscrire donc dans un tournoi à partir du 22 février prochain, comme par hasard juste avant la tournée américaine de Masters 1000 avec Indian Wells et Miami. Alors Serena, ce retour, c'est pour de vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense?
Alors moi j'ai pas eu vraiment d'infos là, from la CIA ou le FBI. Oh,
T'as pas les contacts,
no. Non, mais on en a un petit peu parlé il y a quelques semaines.
C'est ça.
Non, moi je reste là-dessus. C'est-à-dire que moi je verrais bien. Je trouverais ça sympa d'avoir un petit retour de Serena. Vénus est toujours dans le secteur.
Bah ouais.
Plus enthousiaste pour Serena que pour Vénus. Hein.
Non, mais moi j'ai jamais été un énorme fan de Serena Williams, mais voilà, je trouve ça sympa de voir ces joueuses qui ont quand même marqué le tennis et puis qui, voilà, physiquement, athlétiquement, sont largement au-dessus de la moyenne et à leur âge, elles arrivent certainement, enfin Serena, je pense qu'elle pourrait réussir à tenir encore la dragée haute à pas mal d'adversaires. Et voilà, moi je suis curieux et pourquoi pas les voir en double. Moi je pense bien les voir
en double.
Les deux.
En vrai, ça sent le double.
Ça serait superbe.
Incroyable.
J'adorerais.
Ça sent le double.
Je sais plus où est-ce que j'ai lu ou vu que Serena Williams avait perdu beaucoup, beaucoup de poids
là. Oui.
Apparemment, elle s'entraîne d'arrache-pied et tout. Oui, non, mais...
c'est vrai, elle a perdu beaucoup
on
de
est
poids.
D'accord.
Et il y a des mauvaises langues qui ont dit oui, mais du coup, elle fait la promo d'un médicament parce que son bonhomme travaille dans une boîte. Non, mais c'est vrai,
oui.
Qui fait la promo d'un médicament amaigrissant et du coup, voilà. Non, mais je ne fais que relayer des rumeurs et des choses qu'on voit.
Moi, je reste positif et je dis qu'elle s'entraîne.
J'ai envie d'y croire.
8 heures par jour, en plus. Et du coup, elle sue à grosses gouttes et voilà, c'est un effet tout à fait physique et chimique.
En plus, je ne sais pas si vous avez vu, Patoche a mis son grain dans la machine.
Patoche, il y croit, Patoche.
Patoche y croit, oui.
Il connaît sa série.
Bien sûr, quand même.
Il a dit que ce serait une très bonne chose pour le tennis, mais je suis d'accord avec Patoche, moi. Je suis d'accord. Non, puis voilà.
Marie n'allait pas d'accord.
Non, mais on l'a dit, non, voilà. Mais... Sabalenka, c'est irrégulier. Swiatek, elle est quasiment aux oubliettes.
Serena Williams au Masters. Bon, voilà.
Rybakina perd des matchs, ça y est. Bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Why not?
Curieux, c'est le terme. Sympathique, c'est le terme. Bon, de là à dire que ça ferait un très gros retour.
Bah non, mais moi j'y crois. Eh bien, on aura peut-être Amélie Mauresmo à Roland-Garros et puis Justine Hénin à Wimbledon.
Bah oui, allez,
pourquoi
soyons
pas,
hein.
Et pourquoi pas, après
pourquoi
tout.
Pas.
Allez, on fait un bond de 20 ans en arrière et puis on retourne dans les années 2000. Allez, let's go. Et
Nathalie Tauzia au Moselle Open, là-bas, non, non. Ça n'existe plus. Bon, tant pis. Mais en tout cas, voilà, on va suivre ça, là. Mais il y a moyen que ça soit une grosse annonce.
Pendant qu'on parle de Serena Williams, moi je voulais quand même donner une petite information importante.
Oh là là. Je sentais une info.
Qu'est-ce que t'as trouvé?
Non, mais c'est même pas une info. C'est juste que je voulais revenir sur quelque chose d'important parce que Vénus, on l'a dit, toujours dans le coin à 45. Serena, bon, 43, 44.
Ouais, 44.
Un peu en dessous, voilà. Et on ne parle pas de mon ami Vera Zvonareva.
Ça fait une semaine qu'il nous baisse.
Ben oui, parce que non, mais c'est quand même quelque chose d'hyper important. Vera Zvonareva. Alors, vous, ça vous fait marrer, mais les vrais fans de tennis s'en rappellent. C'est quand même une ancienne numéro 2 mondiale.
Oui, tout à fait.
Voilà, finaliste de Grand Chelem à l'US Open, à Wimbledon, deux fois demi-finaliste en Australie. 41 ans,
oui.
Notre petite Vera, voilà. 41, 12 titres en simple.
Pas mal.
Voilà, toi, t'as un titre au Palais des Sports, mais t'en es pas encore là. 18 titres en double. Mine de rien. Et donc, bon, elle a fait pas mal de breaks et de petites pauses dans sa carrière. Bon, consacrée beaucoup au double maintenant. Mais je sais pas pourquoi, ça, faudrait que je lui demande. En tout cas, elle est revenue sur le devant de la scène et puis elle s'est inscrite à des tournois et donc elle a fait quelques tournois. Et donc, elle a passé un tour, là, notamment à Doha. Mm. J'étais particulièrement content. Elle a battu l'américaine Stearns en 3-7. Donc voilà, Zvonareva, toujours dans le secteur. Elle a quand même passé les qualifs, elle est sortie des qualifs, elle a passé un tour. Bon, elle a chuté ensuite face à Mboko, qui n'est pas n'importe qui.
Qui n'est pas logique, n'importe qui.
Voilà,
qui
a peut-être perdu contre la future gagnante du tournoi. Donc voilà, moi je dis chapeau, coup de chapeau à Vera Zvonareva. J'ai vu qu'elle avait perdu aujourd'hui en qualif à Dubaï. Bon, Stearns.
Oh, bah décidément.
C'est une sorte de revanche. Elle a perdu en 3-7. Mais voilà, apparemment, c'était pas juste une petite histoire comme ça. Elle a fait 2-3 tournois en simple de suite. Peut-être un vrai retour pour Vera Zvonareva. Elle a fait demi-finale en double là, à l'Open d'Australie. Elle est en pleine forme, voilà. Moi, j'y crois.
Elle est inarrêtable.
Et je pense que ça donne des idées à Serena, ça. Entre grandes joueuses, elles se comprennent.
Mais je pense bien, effectivement. En tout cas, merci Richard pour ce petit laïus.
C'était important.
Sur Vera Zvonareva, c'est important. Et moi aussi, j'avais quelque chose à partager. C'est beaucoup plus terre à terre, mais j'avais besoin de l'exprimer.
Aux deux pieds.
Non, j'ai vérifié avant. J'ai pas bougé mon pied.
Eh oui, le retour de la faute de pied, tu le connaissais pas celui-là, Marine? Ben non,
c'est très drôle.
La faute de pied de Michel Boujna,
c'est un mythe, évidemment.
C'est un mythe.
Eh ben oui, parce que moi j'avais besoin de partager une épreuve que j'ai vécue cette semaine. Non pas d'avoir interviewé un ancien président de la République, ça je laisse ça de côté.
Fallait qu'il le place.
Voilà, ça c'est fait.
Le place,
allez,
monsieur,
hop, le flex,
voilà.
Ça c'est fait. Non, je veux parler d'une vraie épreuve, un vrai parcours du combattant. Pour obtenir une place à Roland-Garros.
Ah ouais,
un billet. Et ouais. Oui, parce que pour celles et ceux qui n'avaient pas l'info, la billetterie de Roland-Garros 2026 a ouvert mardi matin pour les licenciés de la fédération. Calme-toi, Simon, je sais que tu nous écoutes quelque part de là où tu es en
dans
France.
Dans le monde.
Et que tu viens de balancer une vaisselle, une assiette dans le mur de rage parce que tu te dis que tu ne pourras pas voir ton chouchou Cameron Norrie au premier tour sur le court 12. Calme-toi, lâche cette assiette. Seuls les licenciés de la fédé étaient concernés par cette session de vente. Donc pas toi, hein, en clair. Cette session de vente dure 6 jours en tout, du 10 au 16 février, mais autant vous dire qu'il fallait être prévoyant pour espérer choper une place. Donc, mardi matin, je me munis de mon ordinateur portable. Le rendez-vous était fixé à 10h sur la billetterie, à 7h précise, pas une seconde avant, pas une seconde après. Nous était attribué une place aléatoire dans la file d'attente. Le but, éviter que des énergumènes n'allument leur ordi plusieurs heures avant pour camper sur le site et cannibaliser en quelques minutes les places mises en vente. Je le répète, une place aléatoire, ça veut dire toi et ta chance, hein, pour ne pas espérer être trop loin dans la file et donc voir le bout du tunnel et donc la billetterie. Arrive donc l'heure fatidique, 10h, le suspense est insoutenable. Vais-je encore une fois faire preuve d'une baraka digne de Nishikori face à Benoît Paire? 50 millième en liste d'attente.
C'est un banger.
Ouh là là.
Non Simon, non, c'est pas un banger, pas du tout. Dans le BTP, on appelle ça la clim. Bref, tant pis, je me dis que tant qu'à être là, on va persévérer.
Mais 50 000 sur combien?
Sur 85 à peu près.
Ah bah ça va.
Bon, enfin, quand même 50 millième. Hein. Bon. Au bout d'une heure, j'ai gagné moins de 3 000 places. Je fais un rapide calcul dans ma tête et j'en conclus que si ça reste à ce rythme-là, j'arriverai sur la billetterie dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 3 heures du matin. J'aime pas trop la tournure que prennent les événements, ça commence à ressembler à un braquage et je me dis que bon, je finis vraiment par perdre espoir. À 11h49, quand un avertissement s'affiche, une tentative de fraude a été détectée pour esquiver la file d'attente et passer sans attendre. J'en profite pour glisser un petit message au nom de toute la France. On vous déteste cordialement. Comme on déteste toutes celles et ceux qui revendent les places en doublant le prix à 10h30. Parce que ça aussi, ça arrive. Et on vous déteste tout aussi bien. Bon, voilà, c'est la fin. Les carottes sont cuites, une fois de plus. Je regarderai Roland-Garros en savourant les bascules ratées entre France 2 et France 3. Mais je reste sur le site, sait-on jamais. Et à 13h30, après 3h30 de souffrance pour mon ordi, j'arrive sur la billetterie et je trouve quand même quelques places. Pas du tout mes préférences, bah, évidemment. Alors on réfléchit quelques secondes et puis on craque. Deux places sur Simone Mathieu pour le troisième tour. Peut-être qu'on verra un Français sur le court, hein, pas dans le public. Morale de l'histoire, j'y ai passé 3h30, j'ai perdu quelques centaines d'euros, mais bon, je serai à Roland-Garros cette année. Ça valait le coup de persévérer quand même, je pense.
C'est beau. Ouais.
Bah alors,
ouais.
C'est une faute de pied, c'est quoi? C'est un coup de gueule ou c'est quand même un soulagement?
C'est un peu de tout, j'avais besoin d'exprimer. Voilà,
fallait que tu évacues.
Fallait que j'évacue cette tension qui était en moi. Voilà. J'avais besoin de tout ça.
Chapeau, en tout cas, tu vois, moi je n'essaye même plus.
Ouais, je l'ai fait.
Tu l'as fait?
J'étais 19 millième, donc je peux pas.
Bah, pardon, ouais. Il y a des privilèges.
Et du coup, t'as eu des places aussi, alors?
Ah oui, moi j'avais plein de places quand je suis arrivée.
J'avais plein de places.
C'est pour ça, je ne dirai rien. Voilà.
Ouais, voilà. Donc, on voit les privilégiés. D'où la faute de pied. Voilà.
Ah, exactement.
Voilà. Mais bon, on ne dira rien. On ne dira rien. That's good stuff. All out of tech from Federer. Bon, bah, c'est l'heure finalement, ça y est. On y est à cette heure tant attendue de pleine balle. Comme tous les 15 jours, c'est l'heure de nos pronos. Les pronos de pleine balle, une nouvelle session de pronos foireux. Je tiens à préciser d'ailleurs que Richard, on s'est fait allumer par Marine lors de la dernière émission.
Oui, comment ça, hein?
Puisqu'elle avait pronostiqué Alcaraz et Rybakina pendant que nous, on était sur du Djokovic Sabalenka.
Oui, non, mais ça, c'est comme la billetterie de Roland, oui. C'est du bol. Quoi.
On est d'accord.
C'est je vous donnerai des tout petits conseils, il n'y a pas de souci.
Ouais,
tu sais quoi, tu prends la confiance, tu vas nous commencer cette session de pronos. On va faire sur Rotterdam et Doha, plutôt, c'est mieux.
Didier Drogba.
évidemment. Commençons par Rotterdam. Tiens, je vois que tu as Rotterdam devant les yeux, Marine. Je te laisse à tes pronos. Qui va s'imposer à Rotterdam?
On parle de la finale, on est d'accord?
Oui, bon, on en a vainqueur parce que là, on est
tournoi,
bon alors.
On est en demi, on est pour le haut du tableau en tout cas.
Je pense que haut du tableau, donc on a une demi sur Humbert Desmineurs. Je pense que Desmineurs va passer parce que Humbert ne montre pas non plus des exploits folichons. Même s'il a été plutôt solide, là, il a quand même eu.
Il a sorti Medvedev. Hein.
Oui, enfin bon, Medvedev, voilà.
C'est ce que
j'en pense. Non, je dirais Desmineurs quand même.
Desmineurs en haut.
Pour le jeu, Desmineurs en haut. Et en bas, on a des quarts. Alors, on a Mounir Bublik, Grigspor, Ojeda Assim. C'est compliqué. Hein.
C'est compliqué. Hein.
C'est compliqué. Bublik, il est pas. Il nous fait 2-3 sets. C'est pas folichon non plus ce qu'il fait.
Bublik est sorti vainqueur d'un gros match contre Hubert Hurkacz au premier tour.
Ouais.
Vraiment super, super gros match parce que Hurkacz, pareil, il revient bien. Là, il va être chiant à prendre là, sur les prochains mois. Il est enfin débarrassé de ses pépins physiques. C'est un super match. Je le place comme ça. C'est vraiment agréable.
Bublik, Mounir, bon, il va passer, je pense, tranquille. Hein. Mounir, il est bien, mais voilà.
Allez, il nous faut un nom là.
Ouais, c'est compliqué. Bon, je pense que le tableau du bas. Bon, allez, je mettrai Ojeda Assim quand même pour le beau jeu. Il nous a fait un Montpellier très très solide. Je pense que c'est lui qui sortira en bas. Donc une finale des mineurs Ojeda Assim.
Très classique. Et donc,
on va dire. c'est dur.
Ah, c'est long,
ouais, c'est long.
C'est long, hein.
Oh là 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 là, Émile, il est d'accord avec nous.
Quel les auditeurs, ils s'endorment là.
Ah là 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 là.
Bon, OK, OK, je me mouille. On va dire au Jali Yassim. Allez, allez, on fait le doublé, le doublé, allez.
Le doublé.
Pour Richard. Moi, pour moi, il enchaînera pas. Ojali Assim, je
oui,
vois
bah,
pas gagner.
Oui, t'as eu le temps de réfléchir, toi. Moi, j'ai mis sur le fait accompli comme ça.
En même temps, tu faisais la maline.
Voilà, t'as bossé les yeux depuis une heure.
Il faut assumer.
Non, pour moi, il ira pas faire le doublé. Allez, moi, je vais être Cocorico. Je vais dire Hugo Humbert.
Ok.
Allez, Hugo Humbert. Cocorico.
Okay.
Hugo Humbert.
Ça pourrait être Bublik aussi, mais Hugo Humbert.
Hugo Humbert, ben je ouais, c'est, ça peut être cool ça, Hugo Humbert.
Mmh, ouais,
je vais pas copier parce que sinon on va dire que voilà, mais j'aime bien, ouais, pourquoi pas Hugo qui revient bien sur Dieu.
Ouais, et dans ses conditions favorables.
Ouais, ça. C'est pas mal. Et ben moi j'ai envie d'aller, je vais rester sur la vague Bublik. Bublik, non mais en vrai il m'a vraiment séduit contre Hurkacz parce que c'était un match vraiment qui était mal embarqué, qu'il a gagné vraiment au mental. Pareil Struff, c'est pas évident non plus sur du Rindor comme ça, et il s'en est sorti. C'est des matchs qu'il aurait pas gagné ça il y a quelques temps je pense, et j'ai envie d'y croire aussi à Bublik. Pareil Félix, je pense pas qu'il fera l'enchaînement. J'ai dit que c'est Bublik qui peut tirer un peu les marrons du feu comme on dit.
Voilà. Grigspor à domicile, non?
Non.
Okay,
non, non, pas Thélen Grigspor. J'ai pas envie. Voilà. Et à Doha, du coup. Bon, là, Doha, on est vraisemblablement sur la fin du tournoi, quand même. On a donc une finaliste, je le disais tout à l'heure, Victor Mboko, qui a éliminé Ostapenko dans la première demi. Donc, on a Mboko en finale. Et de l'autre côté, on a l'autre demi en cours, Sakkari, qui menait la danse face à Mukhova. Voilà.
Donc, et alors, ça donne quoi,
donc, ça donc, pour l'instant, ça nous donne 6-3-2-1 pour Sakkari.
Bon, OK. Moi je vais rester clairement sur Mboko, moi, qui me fait une très belle impression. En plus elle a battu Zvonareva au premier tour, deuxième tour. Bon, moi elle ne peut que gagner ce tournoi.
Ouais, je partirai là dessus aussi. Ouais, par pur ego, parce que j'ai pas envie de voir Sakkari gagner. J'ose espérer que Mukhova va se réveiller et passer, mais non, Mukhova elle est solide, mais je trouve qu'elle a beaucoup de passes un peu fébriles, et contre Mboko ça passera pas, donc j'irai Mboko aussi.
Mboko, et ben moi aussi, je vais sur Mboko, et je prends même un pari, soyons fous, allez c'est parti.
Tous les trois c'est Mboko ça même. Hein.
Oh oui, bravo. Et je prends un pari, si Sakkari gagne le tournoi, je reviens faire l'émission en perruque comme avec
Spacia
2.
Voilà. Ça c'est pour moi. Tu l'as déjà fait, il faudrait que tu...
Bah oui, mais j'ai pas d'autres perruques, je trouverai un truc d'ici 15 jours, mais
allez, ouais, on va,
je serai déguisé quoi, pour la prochaine. Je vais réfléchir. Et on va terminer cette émission avec la page Normandie, avec toi, Richie, en fin limier de l'équipe. Tu es allé faire un tour du côté de Bayeux il y a quelques temps.
Oui, bah, tu me connais, j'aime le tennis.
Bah oui, je sais bien.
J'aime le tennis et effectivement, il y avait un événement. On n'en a pas trop parlé, il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus, mais c'était quand même un bel événement. La Normandie qui a accueilli donc les phases qualificatives de la Winter Cup le week-end du 1er février. Ça s'est passé au club de Bayeux. Alors la Winter Cup, c'est le championnat d'Europe par équipe d'hiver pour les jeunes champions. Et à Bayeux, il s'agissait des équipes des moins de 12 ans. Alors c'était la phase qualificative. Le but, c'est de participer ensuite aux phases finales. Des rencontres par équipe, donc deux simples, un double. Avec la France, on retrouvait l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et Chypre. Donc ça se passait sur 3 jours. Et évidemment, ça joue pas mal dans une belle ambiance à Bayeux. Il y avait quand même un petit peu de monde, on va le dire. Nos petits Français, ils ont atteint la finale et ils se sont inclinés face à une surprenante équipe de Chypre. Ça s'est joué au double décisif. Et là, je vous laisse écouter la balle de match. Il y a un peu de suspense, il y a un peu de tension quand même. Hein. Et voilà. L'explosion de joie de nos petits chypriotes.
Oui.
Et ouais, défaite pour nos Français, 6-2, 6-3, qui termine deuxième. Mais ce sont les deux meilleures équipes qui sont qualifiées pour la phase finale à Sunderland.
Oui, monsieur.
En Angleterre.
Yeah.
Ouais, merci.
Thank you very much.
Et donc, ça passe pour nos Bleus. Hein. Et c'est ce week-end, la phase finale à Sunderland. Hein.
Okay.
C'est aujourd'hui, demain, après-demain. Et donc, on a tendu le micro à Bayeux, je reviens à Bayeux là. On a tendu le micro au coach de nos jeunes espoirs, Franck Cabane. Alors, vous allez voir, Franck, il mise sur cette défaite pour que les garçons en tirent une bonne leçon.
Il nous a manqué un petit peu d'état d'esprit aujourd'hui.
C'est vrai ?
Oui, peut-être une décompression. La qualif était tellement importante pour eux que hier, ils étaient tellement heureux. J'ai dit, attention, il y a encore une marche à franchir. Et peut-être qu'on a à la fois sous-estimé Chypre. parce qu'ils me disaient oui, ils sont moins bons que la Belgique, il faut qu'on joue. Donc je pense que les deux leçons, c'est un, ne jamais sous-estimer, et deux, si on n'est pas dans l'état d'esprit à fond, dedans à 100%, les adversaires sont là, c'est le niveau international.
Mais on y croit quand même, évidemment. Objectif, victoire à Sunderland, Franck Cabane.
Oui, on va essayer d'aller au bout. De toute façon, c'est une expérience positive. On est dans la formation aussi. Hein. Oui, il faut gagner. Enfin, on aime gagner. Mais moi, je suis toujours sur le tableau de la formation et du progrès.
Bon, voilà, ça, c'est plus important. En tout cas, de ce qu'on a vu là, nous, bon, on n'a pas l'habitude hein, de voir des enfants de 11-12 ans de ce niveau-là. C'est quand même assez incroyable. Niveau technique monte, hein. Et mental aussi.
Oui, ouais, bien sûr. Puis le niveau monte chaque année. Hein. Les 12 ans aujourd'hui, ce n'est pas du tout les mêmes qu'il y a 10 ans, parce que le haut niveau tire vers le haut de toute façon. Donc les jeunes, les entraîneurs adaptent aussi la formation par rapport à ce qui se passe à haut niveau. Aujourd'hui, on frappe fort dans la balle. Il faut servir fort. Donc on entraîne les enfants pour frapper fort aussi, pour, en vue de leur carrière, du chemin qui leur reste à faire.
Qu'est-ce qu'ils ont comme dose d'exercice physique, je dirais, ces enfants de 11-12 ans ?
11-12 ans, à peu près entre 5 et 6 heures d'entraînement physique par semaine. Voilà, beaucoup de prévention aussi. Ça, ce soir, on dit oh, 6 heures, ça fait beaucoup, mais c'est beaucoup de prévention en vue des blessures.
Bah, parce qu'en voilà. Pleine croissance, il faut voilà. Y aller mollo, j'imagine.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices de prévention. Et ensuite, ils jouent à peu près entre 12 et 18 heures de tennis par semaine, selon les semaines. Il y a des semaines plus importantes que d'autres.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est globalement mon volume horaire de l'année 2025.
12 à 18 heures par semaine. Alors évidemment, on est allé échanger quelques mots avec nos trois petits Français. On va commencer par Jules. Et vous savez quoi, Jules, il sait de quoi il parle. C'est le fils d'un ancien top 100.
Aujourd'hui, le double, on a mis du temps à rentrer dedans. Même, enfin, on n'est pas vraiment rentré dedans à la fin, mais quand même, on a bien joué quand même, ça va.
Bon, et comment tu vois le futur, toi ? Est-ce que tu comptes avoir une carrière comme papa ou pas ?
Oui.
Ouais ?
Ouais.
Et lui, qu'est-ce qu'il en dit, papa ?
Bah, il veut aussi.
Ouais ?
Ouais.
Vous allez tout faire pour ?
Ouais.
T'es classé combien actuellement ?
15-2.
15-2 ? Et t'as des objectifs, là, pour cette saison ?
Bah...
Non, t'as pas d'objectif ?
Bah, si. Ah. Bah, déjà, d'être... De faire un bon tournoi en Winter Cup,
ouais.
Enfin le tableau du coup. On peut monter aussi au classement, mais c'est pas le plus important et voilà.
C'est quoi le plus important ?
Bah, de bien jouer.
Bah oui, c'est de bien jouer évidemment. Alors Jules, son papa c'est Jérôme Hennel. Vous vous rappelez de Jérôme Hennel ? C'est beau ça quand même.
Ça c'est fou ça.
Bah, c'est assez fou, Jérôme Hennel qui avait fait un beau parcours chez lui à Metz de mémoire. Vous vous rappelez, c'était le joueur français ? Non, vous vous rappelez
non.
Pas.
Non, non.
Bon,
non.
Moi je me rappelle. C'est le joueur français qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas prendre l'avion.
Ouais, ça j'avais la ref.
Ah ouais.
C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il avait du mal à voyager, à aller sur les tournois un peu partout dans le monde. Donc il faisait vraiment les tournois au plus proche de chez lui. Et ça ne l'a pas empêché quand même de grimper jusque dans le top 100, Jérôme Hennel. Donc Jules, son petit garçon, Jules Hennel, 15-2 à 11 ans. Bon, ça sent plutôt bon. Partenaire de Jules pour le double décisif, c'était Maël. Alors Maël, lui, il était un peu marqué par la défaite. Hein.
Ouais, je suis un peu déçu quand même d'avoir... C'est un peu dur au double décisif, mais ça va.
Double décisif, une défaite un peu cruelle, mais quand même, au-delà de ça, il y a cette place de finaliste, et puis surtout, dans quelques jours, vous partez à Sunderland.
Ouais, bah ouais, c'est sûr qu'on a fait finaliste, donc on est tous très contents d'arriver jusque-là. De s'être qualifié à Sunderland, c'est cool, puisqu'on a atteint l'objectif du tournoi. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé gagner cette finale, mais bon, on est qualifié, c'est le plus important.
Ouais, et puis surtout, là, à Sunderland, ça va être encore des gros matchs contre d'autres équipes, et puis un super événement qui va être à vivre là-bas.
Ouais, c'est vrai, ça va être super. Il y a plein de terrains, il y aura une bonne ambiance, je pense, et des gros matchs à jouer, donc on va s'amuser, je pense.
Tu vas pouvoir progresser en anglais ? Tu parles anglais ou pas ?
Bah, en anglais, on va pas dire que c'est pas super, mais c'est sur la bonne voie.
Ouais, c'est la bonne voie. On pourra lui donner quelques cours d'anglais, évidemment.
Tu t'en chargeras.
Ouais. Bien sûr. Donc... Bon, je ne sais pas pourquoi vous vous moquez comme ça. Bon, Maël, on le sentait un petit peu abattu, mais bon, on était vraiment juste après ce double décisif. Mais c'est bien, ça veut dire qu'ils prennent très, très au sérieux ces matchs-là, c'est important. Et puis le troisième, c'est Edgar. Edgar, lui, tirait du positif de ce week-end à Bayeux.
J'avais fait des bons matchs, l'équipe aussi. Et je suis super content d'être qualifié.
Ouais.
Même si on a perdu aujourd'hui, c'était quand même une bonne expérience.
Toi, tu vis où, Edgar ?
Aix-en-Provence.
T'as pas du tout l'accent, Edgar.
Non.
On n'a pas l'accent dans le sud ?
Non.
Bon, et toi, est-ce que tu as des objectifs précis pour cette saison?
Bah, c'est quand même si là on a perdu aujourd'hui, c'est de gagner quand même la Winter Cup.
Ouais.
Et gagner les championnats de France.
Ouais, à titre individuel?
Ouais.
Bah voilà, ça c'est pas mal comme objectif. Ton classement aujourd'hui, c'est quoi?
15-1.
Bon, et au niveau classement, t'aimerais passer deuxième série ou pas?
Bah oui.
Ça va se faire ou pas? T'es confiant?
Oui, je pense que ça peut se faire.
Voilà, en toute humilité, moi j'aurais adoré dire ça à son âge ou un jour dans ma vie peut-être. Bah merci les gars, allez, je vous laisse passer à la cérémonie. Et bravo à vous surtout, hein.
Voilà, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir dire ça.
Oui, c'est vrai que c'était...
Oui, je pense, passer deuxième série.
Oui, bon. Normalement, c'est prévu pour le mois de mai.
Bah, y en a une autour de la table qui pourrait peut-être le dire.
Oui, à la rigueur, c'est vrai.
À la rigueur.
Ah, je me sens pas du tout visée.
Voilà. Bah, c'est pas tout le monde, on a dit une déjà. Bon, ça réduisait, j'en ai possédé.
On sait pas.
Non, Marine, on va la coacher un petit peu. Là.
Ouais.
Ah, j'en ai besoin, attention.
Bah, évidemment, on est là pour ça aussi, t'inquiète pas. Alors, pour Chypre, c'est une victoire historique. C'est la première fois qu'une équipe de jeunes garçons se qualifie pour la phase finale du championnat d'Europe à Chypre. Alors, je vous propose d'écouter le coach Haris Pissadakis. Et comme je sais que Marine parle exceptionnellement bien anglais, eh ben, on va essayer de traduire ça en direct live. Parce que c'est ça le direct aussi. Hein.
Un grand moment de radio.
On l'écoute, Haris.
First of all, congratulations.
Thank you very much.
It's true.
Tout d'abord, félicitations. Hein, ça y est, c'est réel, c'est historique pour vous.
Hein. Ah oui, c'est un rêve, on l'a fait.
Et maintenant, vous êtes qualifié pour Sunderland, la phase finale. Vous y allez avec de l'ambition?
Oui, on est très ambitieux, très excités. Les garçons ont fait une super performance, fantastique. L'objectif, c'était de se qualifier pour les phases finales à Sunderland. On les a qualifiés. On a la motivation pour aller plus loin. Et puis on est très content d'aller là-bas et de concrétiser notre rêve.
Bravo à vous, Haris. Comment vous expliquez qu'un si petit pays comme Chypre ait autant de très bons joueurs là sur cette génération?
Vous savez, on a eu un excellent joueur, Marcos Bogdatis. Il a été 7e mondial, finaliste à l'Open d'Australie. Il a beaucoup changé le tennis dans notre pays. Et donc, grâce à lui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui se sont lancés dans ce sport. Et puis aujourd'hui, c'est le résultat de cette montée en puissance du tennis à Chypre. On est très content que les enfants en veulent, sont motivés, ils rêvent de faire aussi bien que Marcos.
Merci Haris et bonne chance pour l'espace final à Sunderland. Merci à vous. Normalement, c'est toi qui te disais ça.
C'était ma voix, ça.
C'était toi, ça.
J'ai fait ce que j'ai fait.
Eh, bravo. Bon, non, franchement, bravo.
Pas mal, quand même.
On dirait que vous avez fait ça toute votre vie.
Franchement, Nelson Montfort
n'a qu'à bien se tenir.
La relève est là.
La relève est là. Bah là, oui, je pense bien.
Non, mais très sympa, Haris. Et puis, ils étaient vraiment hyper heureux. Hein,
ouais.
Ces Chypriotes, on sentait que c'était hyper important pour eux. Donc, on leur souhaite peut-être pas de gagner. On espère que les Français vont gagner à Sunderland, mais de faire un beau parcours. Et on va terminer avec un mot de la présidente du TC Bayeux, Émilie Boudot, une présidente satisfaite.
Oui, on a eu pas mal de visiteurs, de gens venus voir les matchs. Les petits joueurs ont été accompagnés de leur famille aussi cette année. On se rend compte qu'à haut niveau, il y a pas mal de familles qui suivent leurs enfants. Donc on est plutôt satisfaits. Tout s'est bien passé. Tout a été fluide dans les repas, les matchs, l'ambiance. On est très content encore de cette seconde édition de la Winter Cup à Bayeux.
Ça fait combien de bénévoles au total là dans le club?
Alors bénévoles pour l'événement de la Winter Cup, je pense qu'on était 10 à peu près.
Okay.
Voilà, à se relayer sur les 4 jours. Donc c'est bien. Oui. Certains ont dû poser des jours pour venir faire jeudi et vendredi, et puis ceux du week-end ont remplacé.
Et alors est-ce qu'il y aura une troisième édition à Bayeux?
Le club est prêt à accueillir la troisième édition. Après, il faut qu'on soit choisi à nouveau pour accueillir une dernière fois la Winter Cup.
En tout cas, vous postulez?
Oui, on postule parce que c'est sympa et puis que c'est toujours très intéressant pour nous, pour nos jeunes et puis voilà, pour la ville de Bayeux.
Et voilà, et plusieurs jeunes de l'école de tennis de Bayeux ont pu être ramasseurs de balles là, durant ce week-end de Winter Cup. Donc voilà, c'est une belle aventure pour tout le monde. Et donc, on l'espère, retourner à Bayeux l'année prochaine pour cette une nouvelle édition, une troisième fois à Bayeux, ça serait bien.
Bah, ça serait
la
quand
Winter
même...
Cup. Non, c'est vrai que c'est un bel événement. Il n'y avait pas un monde fou. On espérait qu'il y ait plus de monde, mais il y avait quand même une belle ambiance, quoi, dans le clubhouse, sur
ouais,
les cours.
Pas mal de personnes qui sont réunies.
Ouais, c'était chouette. Et honnêtement, en termes de niveau de jeu, c'est quand même impressionnant. Hein. De, ouais. voir des, de voir des bambins
des
comme
bambins,
ça, qui tapent aussi fort. Enfin, voilà, au niveau du service, ils tapent quasiment. Plus fort que nous, hein. Je sais pas combien ça sert, mais
ouais.
150, 160 déjà, quoi. Alors qu'ils font 1m45, quoi.
Ils sont pas plus grands que le filet, et puis...
c'est assez incroyable. Ça vaut le coup d'œil, vraiment, quoi.
Ouais, très très bel événement que cette Winter Cup ouais. Du côté de,
vraiment
de
cool.
Bayeux.
Et donc, on va essayer de suivre, on va jeter un petit coup d'œil là sur ouais. les résultats ce week-end.
Ce week-end. Mmh. Et bah, puis, on en reparlera dans la prochaine émission,
on fera
évidemment.
Un petit débrief.
un
feedback.
Voir ce que ça donne.
Voilà, et puis, je réitère mes félicitations pour cette traduction en live absolument parfaite. Bravo.
Merci.
On a mis tout ce qu'on a pu, du cœur surtout. Hein.
Mais je vois
toujours.
Ça, je pense que...
Essentiellement du cœur.
Essentiellement du cœur. Et c'est ce qui compte le plus en cette veille de Saint-Valentin.
Exactement.
Ouais, non, franchement, bravo. Et puis, bah, merci pour cette petite pastille.
Ouais, c'était cool.
Sur la Winter Cup. Hein. C'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter, malheureusement, pour ce soir.
Ouais, tout a une fin.
Déjà.
Toutes les belles choses ont une fin, évidemment. Merci à vous deux d'être venus pour cette belle émission ce soir.
Merci.
On parle de quoi dans 15 jours?
J'allais le dire, justement. Dans 15 jours, de quoi va-t-on
se
parler?
Oui.
Eh bien, voilà. On va parler des tournois qui vont être disputés.
On va parler tennis.
Ah bon,
okay. Oui, voilà.
Ah bon,
on ne parle pas de surf ni de mannequinat.
Ah,
je tiens à préciser.
Ni tatouage, ni blonde.
Petite pastille quand même.
Oui, bah on parlera un peu Art & Go pour parler de Gaël Monfils.
Voilà, évidemment, s'il est guéri, on fera un point sur un point médical pour Gaël Monfils. Non, on aura les tournois d'Acapulco, de Dubaï par exemple, à débriefer. On surveillera peut-être que Serena Williams aura annoncé son retour d'ici là.
On espère bien.
Alors, allons savoir. Suspense. Réponse dans 15 jours.
Réponse
dans 15 jours. Merci à Émile évidemment d'avoir assuré avec brio la technique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Le podcast sera disponible dans la foulée.
Il est déjà dispo,
de toute façon. Encore,
même
voilà,
il est dispo.
Bonne soirée et à dans 15 jours.
Salut tout le monde.
Bonne soirée.
Salut.